m'intéresse pas.
Moi non plus. Est-ce qu'il y a un sport qui vous intéresse?
Ben oui, moi j'aime bien cette animation, moi j'aime bien ça.
Bienvenue dans Grand Écart, l'émission qui a pour ambition de parler de sport à tout le monde. On va être dans l'analyse critique, le recul historique,
le recul absolu et le liftage.
Parler de très nombreux sujets de société, le sport va être notre fil rouge. L'idée, c'est d'intéresser les passionnés comme moi, mais aussi ceux qui détestent le sport.
Et le bout du filet.
Moi, c'est Mathieu.
Baseball.
Et c'est parti.
Basketball.
Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de pratiquer... c'est une espèce de défoulement.
Eh ben alors ça, je suis en rage.
Pourquoi vous êtes sorti?
Est-ce que vous auriez joué au...
Écoutez, moi je n'ai plus l'âge de jouer au football, mais ça m'intéresse quand même.
On n'aura pas l'esprit du Real de Madrid.
Vous êtes sur Jet FM. Et c'est l'heure de parler sport et société.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Écart. Aujourd'hui, on va parler d'un événement sportif majeur dans l'histoire du sport. C'est les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin qui ont été organisés par le régime nazi. Donc c'est un moment absolument charnière dans l'histoire du sport. Et on va faire tout un retour historique, poser le contexte, développer sur les Jeux en eux-mêmes, toutes les conséquences qu'il y a eu de ce moment très particulier. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CIO, donc l'organisme qui organise les Jeux Olympiques, n'a pas attribué les Jeux au régime nazi, mais dès 1931, à une époque où l'Allemagne s'appelle la République de Weimar. Donc on est sur les conséquences terribles pour ce pays de la Première Guerre mondiale qui perdure. La crise économique, le krach boursier de 1929 qui vient depuis les États-Unis mettre une espèce de dernière pelletée de terre sur le cercueil de cette Allemagne d'avant et qui va, par la misère générée dans le peuple allemand, permettre au parti NSDAP, le parti nazi, de gagner des voix aux élections, de réussir de bons scores électoraux et puis au bout d'un moment de ne plus laisser aucun autre choix que de donner les clés du pouvoir à Hitler. Donc Hitler arrive au pouvoir en 1933 et va hériter du cadeau de l'organisation des Jeux Olympiques. Donc ce seront les Jeux de 1936, les premiers Jeux vraiment modernes, ça existe depuis 1896, il y a déjà eu une dizaine d'éditions. Et on va avoir un avant-goût avec les Jeux nazis du succès populaire et commercial de l'olympisme. Les nazis ont fait du grand rendez-vous olympique la grande messe spectaculaire qu'elle est aujourd'hui. Alors pour le coup, c'était pas une évidence au départ, parce que dans les arcanes du pouvoir nazi, on va se poser la question de l'intérêt d'organiser une telle compétition. Goebbels, par exemple, qui est un des théoriciens du nazisme, va être très contre cette compétition cosmopolite, qui va donc accueillir tous les peuples du monde, et les nazis sont pas les plus ouverts du monde. On sait qu'ils ont été extrêmement violents à l'égard de nombreuses communautés, que ce soit les juifs évidemment, mais aussi les tziganes, les communistes, les homosexuels, les noirs, c'est moins connu, mais les nazis sont très racistes des noirs. Donc ça va être très spectaculaire pendant les Jeux Olympiques. Et donc il n'y a pas grand monde qui trouve grâce à leurs yeux, si ce n'est ceux qui leur ressemblent absolument. Et du coup, ils se posent la question de l'intérêt d'organiser un truc pareil, où ils vont devoir accueillir le monde entier, dans sa diversité. Après les Jeux de 1932, qui ont eu lieu à Los Angeles, on peut lire dans un journal nazi qui s'appelle, alors je parle très mal l'allemand, mais le journal s'appelle le Völkischer Beobachter, et on peut lire dans ce journal de propagande nazi « Les prochains Jeux auront lieu à Berlin. Espérons que les responsables sauront où est leur devoir. Les Noirs doivent être exclus, nous les comptons. » Donc on voit que le racisme nazi est quasiment total. Il déborde de l'antisémitisme, c'est vraiment énormément de monde qui est concerné. Et puis progressivement, au sein du parti, les débats vont faire basculer le pouvoir allemand vers l'idée que organiser les Jeux Olympiques va être un formidable outil de propagande grâce auquel les Allemands pourront profiter de la gloire de leurs athlètes, En fait, il va s'agir de prouver la supériorité de la race aryenne. Et pour ce faire, ils vont développer un concept qui s'appelle le sportif d'État. Donc c'est des gens qui vont être des athlètes, qui vont être nourris, logés, entraînés par le régime et qui auront en retour l'objectif de gagner des titres et puis de faire le salut qui va bien pour montrer leur allégeance au parti. En ce qui concerne Hitler lui-même, on a une documentation absolument parfaite de sa vie. Il y a des livres qui recensent absolument tout, sa vie, son œuvre. Donc on sait absolument tout sur le Führer, et notamment son rapport au sport. On sait qu'il n'aimait pas spécialement ça, qu'il n'aimait pas le foot par exemple. Le seul sport qu'il trouve un peu grâce à ses yeux, c'est la boxe, mais encore de manière un peu marginale.
Sieger Habosch, Ungarn. In der Entscheidung im Schwergewicht Box.
Début des années 20, il va tenter un coup d'État avec l'incendie du Reichstag, l'Assemblée nationale allemande, en essayant de faire accuser les communistes. Ça ne va pas fonctionner, ils vont se faire prendre et il va finir en prison, il va faire un passage en prison, pendant lequel il va écrire son seul ouvrage, Mein Kampf, donc Mon combat en français, qui est de l'avis général un très mauvais livre, c'est très mal écrit et il n'y a pas beaucoup d'intérêt littéraire, en tout cas dedans. D'un point de vue théorique, on peut aussi conclure de ce livre que Hitler n'a pas inventé grand-chose, c'est pas un théoricien. En gros, Mein Kampf, c'est la synthèse du siècle précédent de pensée nationaliste allemande qui est née avec les défaites militaires contre la France et qui s'est développée notamment dans les gymnases avec la gymnastique militaire où on a fait du sport un objectif de construire des futurs soldats, notamment pour pouvoir se venger de la France. Dans Mein Kampf, il y a un seul paragraphe qui parle de sport et qui dit, je cite, « Des millions de corps entraînés au sport, imprégnés d'amour pour la patrie et remplis d'esprit offensif, pourraient se transformer en l'espace de 2 ans en une armée. » Donc le message est extrêmement clair, si on fait du sport, c'est pas pour s'amuser, c'est pour devenir un futur soldat. On a, dans le régime de l'époque, le responsable des sports du Reich qui s'appelle Hans von Chammer und Osten, qui va avoir cette phrase, « Des jeux apolitiques sont inconcevables pour nous autres nazis. Chaque athlète doit être avant tout national-socialiste. » Donc on a ici un concept extrêmement clair. Les gens qui font du sport, qui sont entraînés par le régime, vont devoir prouver la supériorité de la race aryenne, qui est un des grands concepts du national-socialisme. Donc une fois que les nazis ont accepté l'idée d'organiser les Jeux Olympiques, ils ne vont pas faire semblant. Ils vont faire ça dans des proportions jamais vues, donc ils vont investir alors que le pays est en ruine économique 20 millions de Deutschmark. Hitler va exiger un stade de 200 000 places qui serait de très très loin le plus grand du monde. L'architecte qui s'appelle Werner Mar va le convaincre de se contenter de la moitié, 100 000, ce qui est déjà colossal. Donc le stade olympique de Berlin fera finalement 100 000 places. On va installer 25 grands écrans dans Berlin qui vont diffuser en direct les Jeux Olympiques à la télé. Donc il n'y a pas les rushs de ces images, mais c'est la première fois qu'on va diffuser quelque chose en direct à la télé. Donc c'est dans Berlin. On va faire imprimer 3 millions de prospectus dans 14 langues différentes. On va faire des émissions de promotion en allemand, en anglais, en français. Celle en français va être enregistrée par le baron de Coubertin. Donc on reviendra à la fin sur cet épisode surprenant. Et puis pour la première fois, donc ça c'est une idée nazie, on va faire passer la flamme olympique de main en main d'Olympie, la ville d'origine dans l'Antiquité grecque, jusqu'à la ville haute, donc Berlin cette fois. Donc c'est un truc qui se fait toujours et c'est quelque chose qui existe encore. Des fois les régimes dictatoriaux, même les plus terribles, mettent en place des choses qu'on garde après. Je donne un exemple comme ça qui n'a rien à voir. Mais quand le maréchal Pétain décide que Nantes sort de la Bretagne, par exemple, c'est quelque chose qui est resté. Alors que depuis des siècles et des siècles, ça n'était pas le cas. Donc on est face à un régime qui est plein de contradictions, notamment dans son rapport aux Juifs, qui est extrêmement problématique, comme chacun sait. Les nazis prennent le pouvoir en 1933, et une de leurs premières décisions officielles, un des premiers textes de loi nazis, le 26 avril 1933, c'est l'exclusion des Juifs de toutes les organisations sportives allemandes. Donc ça va prendre un peu de temps, mais progressivement, les Allemands vont purger leur sport de tous leurs Juifs. Et il y a même à un moment donné, en 1938, une plaque qui est installée devant la DFB, la Fédération Allemande de Football, qui dit « Judenfrei ». Le football allemand a été purgé de tous ses Juifs. Donc il y a beaucoup de Juifs qui vont instantanément comprendre l'enjeu de ce qui se passe, fuir l'Allemagne et donner l'alerte sur la situation du pays à l'étranger. Donc on a beaucoup de juifs allemands qui vont s'expatrier et qui vont notamment refonder Hollywood. C'est l'âge d'or d'Hollywood avec Charlie Chaplin pour le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Et on a la Metro-Goldwyn-Mayer, par exemple, parmi les grandes maisons de production, etc. Donc il y en a qui sont importants dans le monde de la culture, qui ont une voix qui porte. Et le monde entier sait très vite que le régime nazi est extrêmement antisémite. Le président du CIO, le 21 mai 1933, menace de retirer les Jeux à Berlin. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Jeux de 1920 sont prévus pour avoir lieu à Budapest, en Hongrie, qui est au début de la Première Guerre mondiale membre de l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui explose à ce moment-là, comme l'Empire ottoman. La Première Guerre mondiale a mis fin aux grands empires, la plupart. Et en 1920, le CIO décide de ne pas organiser les Jeux dans une ville qui a perdu la guerre, et on va changer de ville pour donner l'organisation à Anvers, en Belgique. Donc les Jeux de 1920 ont eu lieu en Belgique, pays qui était considéré comme dans le camp des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Tout ça pour dire que c'est extrêmement simple, il suffit de le décider, et on change de ville. En 1904, par exemple, les Jeux devaient avoir lieu à Chicago, et les Américains ont décidé d'eux-mêmes de changer de ville pour les organiser à Saint-Louis, dans le Missouri. Et les Jeux de 1904, qu'on surnomme les Jeux de la honte, je ferai peut-être un autre épisode là-dessus, ont été aussi déménagés. Donc en 1933, en mai, le CIO annonce que Berlin est sur la sellette, on va peut-être changer de ville. En gage de bonne volonté, le régime nazi va placer à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Berlin un homme juif qui s'appelle Theodor Lewald. On a deux autres juifs qui vont servir de caution morale, si on veut, qui s'appellent Wolfgang Fürstner, il va être directeur du village olympique, et puis une athlète, l'escrimeuse Hélène Mayer, qui est ce qu'on appelle demi-juive dans ce monde-là, puisque seulement son père est juif et que la judéité se transmet par la mère. Et Hélène Mayer, en escrime, va avoir une médaille d'argent. Elle est donc montée pendant les Jeux sur le podium olympique, et on a une photo absolument historique d'une athlète juive qui fait le salut nazi sur le podium olympique. Alors évidemment, le monde entier prend conscience assez rapidement de la violence de ce régime allemand, et de nombreux mouvements de boycott vont se monter un peu partout dans le monde, et le débat va être extrêmement intense, est-ce qu'on participe ou pas aux Jeux de Berlin ? Notamment aux États-Unis, qui sont un pays absolument moteur dans le CIO de l'époque, puisque le président du CIO américain, Avery Brundage, est très influent. En 1935, Avery Brundage va faire une visite officielle en Allemagne, et il va être convaincu par les autorités allemandes, qui sont finalement pas si antisémites que ça, et que tout est bien organisé, que donc il n'y a pas de souci. Donc les États-Unis, les premiers, vont décider officiellement de participer aux Jeux de Berlin, et dans leur sillage, tous les autres pays du monde vont décider de participer. Il n'y a pas un seul pays sur Terre qui a boycotté les Jeux de Berlin. Là, je fais un petit développement parallèle, mais les campagnes de boycott massives qui ne sont pas suivies d'effets ont, à mes yeux, un impact contre-productif. Donc ça s'est passé plein de fois dans l'histoire, en 1936, mais aussi par exemple en 1978 au moment de la Coupe du Monde de foot en Argentine, en 2008 au moment des Jeux Olympiques à Pékin, en Chine, en 2022 au moment de la Coupe du Monde au Qatar, on a des vagues d'indignation sur ces régimes dictatoriaux, sur les morts sur les chantiers, sur le traitement des Ouïghours, sur le traitement des Tibétains en 2008, etc. Et c'est des campagnes de boycott qui font tout le temps pchit, il ne se passe rien, personne ne boycotte. Et donc à la fin d'un mouvement de boycott initié mais qui n'a aucun effet, le régime chinois par exemple en 2008 se dit « Ok, vous avez voulu défendre la cause tibétaine, mais à la fin quand il a fallu venir, vous étiez tous là ». Donc le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin en 2008, on n'a jamais mis autant de dirigeants du monde au même endroit. Ils étaient plus de 100 dans le stade. Et du coup les Chinois se disent, c'est ce que j'imagine, vous avez parlé très fort, vous autres occidentaux, mais vous n'avez rien fait. Donc là c'était les Tibétains, puis la prochaine fois ce sera les Ouïghours. Et puis vous parlerez fort encore, et puis vous ferez rien non plus. Et donc les Jeux d'hiver de Pékin 2022 ont eu lieu avec une nouvelle campagne de boycott qui a fait... Pshit, c'est un peu le schéma à chaque fois. Au jeu de 1936, à Berlin, on aura 49 pays participants, c'est pas encore universel comme ça l'est aujourd'hui, c'est un record à l'époque pourtant. On a quand même, en 1936, la même année, quasiment en même temps, c'est censé être organisé du 22 au 26 juillet 1936 à Barcelone, l'Olimpiada Popular, qui doit être une compétition concurrente pour, en gros, les antifascistes du monde entier. Malheureusement, les hasards du calendrier font que la guerre civile espagnole éclate à ce moment-là et qu'au moment où les troupes de Franco, donc la Falange, arrivent à Barcelone, dernière ville à conquérir pour avoir fini la conquête de l'Espagne, on est juste au moment où cette Olimpiada Popular doit se dérouler. Donc on a les athlètes qui sont déjà présents sur place, internationaux, donc il y a même des Allemands, antifascistes, des Français, ils sont quasiment 10 000, et certains vont prendre les armes avec les républicains espagnols dans cette guérilla urbaine qui est la fameuse bataille de Barcelone pour la prise finale du pouvoir de Franco, qui durera jusqu'en 1975. Et l'Olimpiada Popular n'a pas lieu, elle est annulée pour cause de coup d'État. En septembre 1935, les lois antisémites de Nuremberg sont publiées par le régime nazi qui exclut les juifs de la plupart des secteurs de la société civile allemande et de la nationalité allemande. Donc si vous êtes juif, vous ne pouvez plus être allemand, mais vous ne pouvez plus être médecin, policier, professeur, etc. Donc on a une loi qui est extrêmement claire sur ce qui est en train d'advenir. On est en septembre 1935. En novembre 1935, donc 2 mois plus tard, le président du CIO, qui est un Belge à l'époque, qui s'appelle Henri de Bailly-Latour, a cette déclaration, je cite, « L'entretien que j'ai eu avec le chancelier d'Allemagne et l'enquête que j'ai menée m'ont convaincu que rien ne s'oppose au maintien de la 11e Olympiade à Berlin et Garmisch. Puissent ceux dont la bonne foi a été surprise reconnaître leur erreur et collaborer avec nous. » Donc le mot « collaborer » a rarement été aussi bien utilisé. Donc il dit les Jeux de Berlin et Garmisch, parce que les Jeux d'hiver et les Jeux d'été sont organisés pendant très longtemps la même année dans le même pays. Donc on a par exemple Paris 1924, Chamonix 1924. C'est bien plus tard qu'on va déjà créer les Jeux paralympiques en 1960 à Rome, et puis décaler de 2 ans. Jeux d'hiver, Jeux d'été, Jeux d'hiver, Jeux d'été tous les 2 ans, et changer de pays. Au début, c'est les deux dans le même pays, la même année. Donc on a les Jeux de Garmisch-Partenkirchen, les Jeux d'hiver, en 1936, en février, en hiver. Et ensuite, on a les Jeux olympiques d'été à Berlin, quelques mois plus tard. Donc les premiers Jeux nazis sont les Jeux d'hiver de Garmisch. Et à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux olympiques d'hiver 1936, on a une photo qui est prise, qui est celle qui vient balayer tous les arguments que pourrait donner le CIO pour dire qu'ils n'étaient pas derrière tout ça, puisque Henri de Bailly-Latour est présent sur place, côte à côte avec Hitler dans la tribune. Et la photo est peut-être la pire, la plus dérangeante de toute l'histoire du CIO. Ils vont arriver parce que les Jeux d'hiver sont encore un peu microscopiques, on va dire, n'intéressent que très peu de monde. Les Jeux d'été dans Berlin, beaucoup plus importants. Donc si on veut reconnaître un mérite au régime nazi, c'est sa capacité à faire de la propagande visuelle. Ils sont extrêmement forts pour mettre en scène les symboles. Donc leur meeting devant 100 000 personnes avec des grands drapeaux, tout ça, c'est extrêmement spectaculaire. Ça, ils le font, on va dire, très bien. Et au moment des Jeux Olympiques, on a des photos extrêmement spectaculaires des rues de Berlin où vous avez le drapeau avec la croix gammée, le drapeau avec les anneaux olympiques et tous les drapeaux du monde qui sont comme ça mis les uns après les autres dans les rues de Berlin, croix gammée, anneaux olympiques, croix gammée, anneaux olympiques, et puis tous les drapeaux du monde qui surplombent tout ça. Donc les Jeux vont arriver, on a pour commencer une cérémonie d'ouverture. Vous irez voir si vous trouvez ça trop bizarre et que vous ne me croyez pas, mais la délégation française, en passant devant la tribune d'Hitler, a fait le salut nazi. Donc il y a, au niveau du CIO français, tout un tas de tentatives d'explications pour dire que oui, non, c'était pas ça, mais les images parlent d'elles-mêmes. Il y a sur la photo, notamment la plus célèbre, Noël van der Noot, qui a 14 ans. C'est le plus jeune médaillé de l'histoire de l'olympisme français, parce qu'il faisait de l'aviron avec ses oncles, les frères van der Noot. Et donc Noël van der Noot, 14 ans, avec les autres, son béret et son bras tendu. Tous les pays ne l'ont pas fait. Hein. Les Américains, les Anglais notamment, ne l'ont pas fait. Il y a plusieurs pays qui l'ont fait, le fameux salut, la France, mais pas tous. Donc ça va être les premiers Jeux résolument modernes, avec un engouement populaire absolument sans précédent dans cette Allemagne qui est en pleine réinvention tragique, mais qui se réinvente quand même. Et pour la première fois, on va donner carte blanche à quelqu'un pour filmer les Jeux Olympiques et mettre en scène le sport avec une caméra. Donc c'est une femme qui s'appelle Leni Riefenstahl, qui est la caméraman officielle du régime, si on veut, qui est un peu la chouchou d'Hitler pour toutes ces questions-là, qui va avoir carte blanche pour filmer l'olympisme. Et son but, ça va être de mettre en scène le corps aryen, le corps allemand, dans toutes ces victoires qu'on pressent. Donc pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir des performances sportives absolument majeures, énormément de records du monde, etc. Et le faste de l'organisation va donner à ces Jeux un éclat visuel et un prestige qu'ils n'avaient jamais atteint jusque-là. Donc de toute cette séquence, Leni Riefenstahl va sortir un film. Il va y avoir 2 ans de montage. Il va être montré au public en 1938 à la Mostra de Venise pour la première fois. Et ce film, Les Dieux du Stade, donc il est disponible sur YouTube. Ça dure 3 heures en noir et blanc, en allemand. C'est un peu... C'est un peu dur à se farcir, mais c'est très beau, très graphique. Le corps est mis en scène de manière très esthétique. Et ce film a gagné le Grand Prix de la Mostra de Venise. Et à l'époque, ce grand festival de cinéma avait changé de nom, puisqu'il s'appelait le Festival Mussolini. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la légende urbaine concernant cette Olympiade nazie. C'est que Jesse Owens, donc le noir américain qui a gagné 4 médailles d'or, aurait vu Hitler refuser de lui serrer la main après ses victoires. Donc ça n'est pas arrivé, pas comme ça en tout cas. On a le premier jour des Jeux Olympiques, un autre noir américain qui s'appelle Cornelius Johnson, qui va gagner la dernière épreuve de la première journée, qui est le saut en hauteur. Hitler, à ce moment-là, qui est présent dans le stade, va quitter le stade pour éviter d'avoir à le saluer, alors qu'il avait annoncé qu'il allait serrer la main de chaque vainqueur. Donc Hitler est rappelé au règlement par le CIO, et en fait sa décision, plutôt que de, je sais pas, s'excuser ou de se dire « ok, le prochain, j'irai lui serrer la main », il décide de ne plus saluer aucun vainqueur ensuite, pour ne pas avoir à serrer la main d'un vainqueur noir. Et du coup, Jesse Owens, qui sera donc 4 fois titré, n'aura pas l'opportunité, si on veut, de faire cette photo qui serait restée dans l'histoire de la poignée de main avec le Führer allemand. Donc Jesse Owens, profil très particulier également, noir américain, en 1936, sous-citoyen, pas le droit de vote, etc. Donc il aura pour ça fallu attendre 1964 et 1968, les 2 grandes lois sur les droits civiques des noirs américains, pour faire des noirs américains des citoyens égaux. Là-bas, donc les noirs sont des sous-citoyens aux États-Unis, qui est un pays structurellement raciste. Aux États-Unis, on sait que c'est un champion, donc il y a une association qui défend les droits des colored people, les gens de couleur, comme on dit là-bas, et qui incite Jesse Owens à boycotter les Jeux de Berlin. On a fait ça plusieurs fois, de demander aux athlètes noirs américains de boycotter les Jeux Olympiques pour la cause noire. Jesse Owens, de son côté, se dit « si j'y vais et que je gagne, ça aura beaucoup plus d'impact ». Et c'est ce qu'il va réussir à faire, puisqu'il va être inscrit dans 4 épreuves, qu'il va toutes gagner, donc le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 x 100 mètres et le saut en longueur. Il y a des images extrêmement fortes de l'Olympiade de Jesse Owens, et notamment l'amitié qu'il a réussi à tisser instantanément avec Lutz Lang, qui est un athlète allemand, blond, aux yeux bleus, très grand, l'arien parfait physiquement, et qui, pendant toute l'Olympiade, ils vont être tous les deux allongés par terre, comme ça, très proches, à se faire des messes basses, des blagues, ils rigolent, ils sourient, ils sont amis. Et en fait, cette simple photo de Lutz Lang et Jesse Owens qui sont en train de devenir amis en direct devant les caméras, à elle seule, elle détruit toute la théorie nazie de la différence, etc. Parce que c'est la preuve instantanée qu'un noir et un blond aryen peuvent être potes. Et ça, c'est extrêmement symbolique à l'époque. Donc sur Jesse Owens, il y a encore pas mal de choses à dire parce que il est, lui, originaire d'un pays extrêmement raciste et il vient participer à une compétition dans un autre pays qui est extrêmement raciste, mais sur 2 versions du racisme. Et il a déclaré, par exemple, c'est une phrase de Jesse Owens à la fin des Jeux, « Ce n'est pas Hitler qui m'a snobé, c'est notre président qui m'a snobé. Il ne m'a même pas envoyé un télégramme. » Et puis au retour des athlètes américains, donc il y a une fête sur... La 5e avenue à New York, on fête les héros du sport américain. C'est lui le héros principal, mais lors de la réception, dans le très chic hôtel Waldorf Astoria, un des hôtels les plus chics du monde à New York, il est obligé de prendre l'ascenseur de service. Il ne peut pas utiliser celui qui est réservé aux Blancs, parce que les Noirs, quel que soit leur statut de héros sportif, n'ont pas le droit de prendre le même chemin que les Blancs. Et puis, il y a une histoire qui est absolument incroyable, qui fait froid dans le dos. C'est l'histoire du relais 4x100 mètres américain. Donc, vous avez les deux plus rapides des sprinteurs du monde, qui sont Jesse Owens et Ralph Metcalf, qui sont deux Noirs américains, qui font premier, deuxième du 100 mètres. Donc, la logique sportive voudrait que ces deux-là soient indiscutables dans le relais 4x100 mètres américain. Sauf que, dans le relais, l'entraîneur choisit qui il veut mettre. Et il va mettre les quatre Blancs de l'équipe. Les deux Noirs, qui sont les deux meilleurs du monde, sont remplaçants. Sauf que là se présente Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, qui vient voir Avery Brundage, le président du CIO américain, et qui lui dit « Dans vos quatre Blancs, là, du 4x100 mètres, vous avez mis deux Juifs. On les aime pas, ce serait gentil de votre part de les enlever. » Donc on a un rire nerveux d'Avery Brundage, et puis l'Allemand qui surenchérit et qui dit on va peut-être mettre des sanctions économiques en place, en fait, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Je ne vous demande pas, en fait, je vous l'ordonne. Et du coup, va se mettre en place le remplacement des deux Juifs du relais 4x100 mètres américain par les deux Noirs que les Américains avaient eux-mêmes exclus dans un premier temps de leur propre racisme. Et on est pris dans un tourbillon et on ne sait plus où on habite. Qui est le plus raciste des deux ? Donc vous en avez d'autres, des scènes comme ça dans cette Olympiade, qui sont particulièrement malaisantes avec le recul historique. Vous avez une photo, par exemple, du podium du marathon. Donc le marathon de 1936 est remporté aux première et deuxième places. Vous avez des Japonais. Le vainqueur s'appelle Son Ki-chung. Et pour tous ceux qui ont une petite connaissance du continent asiatique, Son Ki-chung, c'est pas un nom japonais, c'est un nom coréen. En fait, le Japon, de 1905 à 1945, a envahi la Corée. Du coup, Son Ki-chung, né coréen, mais sous occupation japonaise pendant toute sa vie, en gros, il faut imaginer qu'en France, l'occupation allemande, qui a duré quelques années pendant la Deuxième Guerre mondiale, est peut-être le plus gros traumatisme de l'histoire du pays. C'est quelque chose d'une violence folle de passer sous le contrôle d'un État étranger. Et les 4 ans que ça a duré en France ont duré 40 ans en Corée. L'occupation japonaise a été d'une violence absolue, notamment pour les femmes coréennes qui ont par centaines de milliers, voire par millions, été exploitées, notamment par l'armée japonaise. Donc c'était une occupation absolument terrible. Du coup, quand un Coréen gagne une médaille d'or pour le Japon, il a honte d'être japonais. Il faut imaginer un Français qui gagnerait une médaille d'or pour l'Allemagne nazie, par exemple. C'est le même genre de sentiment qu'il a dû ressentir. Et donc sur la photo, il est avec sa couronne de laurier du vainqueur et la tête baissée, et le premier et le deuxième ont honte d'être japonais. Donc je vous ai dit plus tôt qu'il y a eu des messages de propagande qui ont été enregistrés dans plusieurs langues, et que celui en langue française avait été enregistré par Coubertin, donc qui a fondé les Jeux Olympiques modernes en 1896, qui a été président du CIO jusque dans les années 20, et qui à cette époque-là, à 73 ans, il est malade, il est aigri parce qu'il n'est plus président du CIO depuis 1925, donc il n'est plus que président d'honneur. Et il a été, selon lui, oublié par cette structure qu'il a fondée. C'est un peu, moi, le parallèle que je fais, Jean-Marie Le Pen, qui a fondé un parti et puis qui, à un moment donné, est devenu tellement dérangeant qu'on lui a dit « Bon, tu seras président d'honneur, mais si tu pouvais fermer ta bouche, ce serait pas mal. » Donc on a un peu ce schéma-là, parce que Coubertin a dit tout un tas de dingueries aussi tout au long de sa vie. Et ce qui est surprenant, c'est que Coubertin et Hitler vont développer une espèce de fascination réciproque. Donc Hitler va le citer souvent, va le flatter beaucoup, le fondateur des Jeux, le plus souvent possible. Il va même, en 1935, proposer son nom au nom de l'Allemagne pour recevoir le prix Nobel de la paix. Donc vous savez peut-être que pour recevoir le prix Nobel de la paix, il faut être proposé par quelqu'un, par une nation. Et donc l'Allemagne nazie a proposé Coubertin. Hitler va le sortir de son isolement. Il va lui verser une rente de 10 000 Reichsmark et il va lui faire enregistrer notamment ses fameux messages radio. Et en retour, Coubertin va faire la promotion et l'éloge, même après coup, des Jeux nazis. On a notamment cette phrase « Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir ».
Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade.
En 1937, l'année qui suit les Jeux Olympiques, Hitler va inviter Coubertin à une réception en Allemagne, mais il va être trop malade pour s'y rendre, donc on n'aura pas cette rencontre physique. Et Coubertin va mourir le 2 septembre 1937, juste après avoir accordé une dernière interview à un quotidien qui s'appelle Le Journal. La dernière prise de parole publique du baron de Coubertin, on a cet extrait, je cite, « Quoi ? Les Jeux Olympiques défigurés ? L'idée olympique sacrifiée à la propagande ? C'est entièrement faux. La grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique. » Donc voilà la dernière phrase officielle publique du fondateur des Jeux Olympiques. Dans la foulée de ces Jeux, la guerre mondiale va éclater, le régime nazi va sombrer dans la folie la plus totale. Et en 1940, l'édition olympique qui était prévue à Tokyo est annulée. Celle d'Helsinki, Jeux Olympiques d'hiver, est annulée également. Les Jeux de 1944 à Londres sont annulés pour cause de guerre mondiale. Et ça ne reprendra qu'en 1948 dans une Londres en ruine avec les deuxièmes Jeux de Londres. Les perdants de la guerre mondiale, comme la première fois, vont être exclus. Donc l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon notamment sont exclus des Jeux Olympiques pour une durée indéterminée. Et il leur faudra faire leurs preuves pour être réintégrés dans le concert des nations respectables. En gros, les Jeux Olympiques se sont toujours voulus apolitiques. Mais quand on étudie leur histoire avec précision, ils l'ont toujours été politique. Il y a toujours eu des pays qui ont boycotté d'autres, des pays qui ont fait des campagnes de boycott, des pays qui ont été exclus, des villes organisatrices qui ont été remplacées par d'autres. Et ces deux pays, le Japon et l'Allemagne, vont progressivement, par leurs efforts, redevenir des pays respectables aux yeux du monde moderne et seront récompensés par l'organisation de nouvelles éditions olympiques. On aura donc Tokyo en 1964 et on aura Munich en 1972 qui feront la réintégration finale de ces pays qui vont même accueillir le monde pour de nouvelles éditions olympiques. Voilà pour l'histoire des Jeux de Berlin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Grand Écart. Je vous dis à bientôt. Ciao.
Jet FM. Jet FM.